Nous allons partager la parole du Seigneur. Je vais vous inviter à aller dans Matthieu, chapitre 16. On va lire à partir du verset 16. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les pasteurs, mais quand il s'agit d'apporter le message de la rentrée, pour moi, c'est toujours quelque chose d'important et de solennel. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut nous parler comme à chaque fois. Mais il y a quelque chose de particulier, je crois, que le Seigneur veut faire parce que qui dit rentrée dit travail, service, œuvre. On sait que dans l'Apocalypse, il a dit, je sais que tu fais beaucoup de choses, mais. Et on voudrait pas être dans le mais, on voudrait être dans les œuvres qui plaisent à Dieu. On voudrait être tout simplement dans l'œuvre de Dieu. Et on va s'intéresser à des paroles que Jésus a dites à Pierre. Matthieu 16, 16. Donc d'abord, c'est Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alors que je priais, alors ça remonte en plus à plusieurs mois en arrière, on a même l'impression que c'était tellement loin. Vous savez, c'était l'époque où l'herbe était verte et elle poussait. Vous savez, pas l'herbe sèche là-haut. Parce que j'étais derrière ma tondeuse et je me suis dit, tiens, ça fait un moment que c'est pas arrivé cette histoire. J'étais derrière ma tondeuse en train de tondre donc l'herbe verte et j'ai été saisi par une pensée toute simple. Il faut que nous parlions de ceux qui édifient l'Église. Et vraiment, le Seigneur a déposé cette pensée sur mon cœur et c'est pour cela que ce message va ouvrir une série de messages sur ces principes qui édifient l'Église. Combien c'est important que les Églises soient édifiées. Vous savez très bien que quand je dis Église, je ne parle pas des bâtiments, ils sont déjà édifiés et il faut les entretenir, bien sûr, mais c'est nous, les croyants, nous avons besoin d'être édifié, d'aller de progrès en progrès. Et un principe qui est donné dans ce verset, cette parole de Jésus dit, je bâtirai mon église, j'édifierai mon église. Donc déjà, on a une réponse. Comment est-ce qu'on peut édifier l'église? On ne peut pas le faire sans Jésus. On a besoin du Seigneur. Jésus est la pierre angulaire de toute l'église. Si on met Jésus de côté, alors on passe à côté de notre mission sur la terre. Mais le but ce matin, ce n'est pas de parler de ce qui arriverait si on ne le mettait pas au centre, mais au contraire, c'est de dire, Seigneur, on veut que tu sois au centre. Regardez le psaume 127 qui est dans l'Ancien Testament, mais qui dit la même pensée. Psaume 127, verset 1er. On veut bâtir, mais là, il est question de bâtir en vain. Psaume 127, verset 1, cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Oui, mais nous, on parle de l'Église, on parle des choses de Dieu, donc ce n'est pas possible qu'on bâtisse en vain. Non? Ce n'est pas parce qu'on veut bâtir l'Église que forcément tout est parfait. Mais on peut bâtir l'Église. Vouloir faire des choses pour Dieu et malgré tout ça le faire en vain. Pourquoi? Parce qu'il y a une donnée dans l'équation qui est très importante. Si l'Éternel ne bâtit la maison, il faut que l'Éternel soit dans l'affaire que nous faisons. Il ne faut pas que ce soit des choses que nous avons envie de faire. Il ne faut pas que ce soit nos raisonnements, nos pensées qui nous poussent à agir. Mais il faut que c'est l'Éternel qui nous révèle sa volonté et ensuite nous agissons pour édifier l'Église. Sinon, mais même si on fait plein de choses pour Dieu, on bâtit en vain. Je pense que ça intéresse personne, ça, de bâtir en vain. Je crois que faire des choses qui ne fonctionnent pas, ça n'intéresse personne. Mais Dieu désire que nous édifions l'Église, que nous nous édifions par sa grâce, parce que lui est dans l'affaire. La maison, c'est une autre image de l'Église. La maison que Dieu veut que nous édifions. C'est lui qui l'édifie d'abord. Et c'est nous qui rentrons dans ses plans. C'est beaucoup mieux quand on suit les projets de Dieu, plutôt qu'on demande à Dieu de suivre nos projets. Vous comprenez la pensée? C'est ça, bâtir en vain. Et on va aller dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. On veut faire ce que l'Éternel a décidé de faire. On veut le faire de la façon dont il le désire. Alors, où c'est que l'Éternel désire que l'Église soit édifiée? C'est Éphésiens 2, verset 20 qui nous le dit. Dans la bouche de l'apôtre Paul, il dit ceci, vous, donc l'Église, vous l'Église, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Première leçon de ce verset, c'est de comprendre que l'Ancien Testament, les prophètes, et le Nouveau Testament, les apôtres, ne peuvent pas être bien interprétés si on ne met pas la personne de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui s'attachent à la loi juive, et que à la loi juive, et qui tombent dans le légalisme, parce qu'ils n'ont oublié que Jésus est venu accomplir la loi. Et il y a des gens qui sont dans l'hypergrâce, vous savez, la grâce bon marché. Oui, je suis libre de faire tout ce que j'ai envie, de toute façon Dieu peut me pardonner à chaque instant. Mais si nous voulons bien interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament, le fondement des apôtres et des prophètes, il ne faut jamais oublier que la pierre angulaire, c'est Jésus. Le fondement, c'est Jésus. Jésus ne doit pas être une pierre parmi les autres dans notre vie, il doit être la pierre angulaire, la pierre de fondement. C'est cette pierre qui est placée donc à l'angle de l'édifice, qui soutient deux murs. Si on l'enlève, il y a tout qui se démonte. Le bâtiment perd en solidité. Si on enlève Christ de l'Église, je le répète, l'Église n'a plus aucun sens. Mais on ne veut pas l'enlever, on veut le placer au bon endroit, on veut lui donner la place qui lui revient, afin que l'Église soit édifiée. Et quand on regarde, et on va rester dans ce texte maintenant, dans 1 Pierre chapitre 2, Pierre, souvenez-vous, c'est celui à qui Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Pierre, c'est celui qui a entendu cette parole de Jésus « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». On comprend très bien que la pierre en question, ce n'est pas Pierre. C'est la révélation que Pierre a eue juste avant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, tu as eu une révélation de qui j'étais, c'est sur cette pierre-là. Et sur des hommes et des femmes qui vont confesser jour après jour, année après année, siècle après siècle, parce que ça commence à faire loin de l'apôtre Pierre jusqu'à aujourd'hui, mais qui confessent que Jésus est le Christ, sur ces pierres-là, le Seigneur peut bâtir son Église. Lui étant la pierre angulaire. Et regardez l'enseignement qu'il nous donne justement. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles ou des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Entendez-vous l'émotion qui saisit l'apôtre Pierre lorsqu'il parle de la pierre vivante, lorsqu'il parle de cette réalité que Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Jésus, c'est le Messie. Jésus, c'est le fondement. Jésus, c'est la pierre vivante. Il parle même d'une pierre précieuse. Dans ce passage, en le méditant, j'avais l'impression que Pierre était en train de décrire son Sauveur comme une pierre précieuse, dont il la faisait jouer dans ses doigts avec la lumière, vous savez, comme s'il y avait différents reflets, différentes facettes de son Seigneur, qu'il essayait de présenter avec des mots, que le Saint-Esprit lui a donné la force de faire. Et c'est ce que ce matin, nous allons essayer de faire ensemble, comprendre comment est-ce qu'on peut bâtir sur Christ. Pour édifier l'Église, il faut que l'Église soit bâtie sur Christ. Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut s'approcher de lui, il faut croire en lui, il faut parler de lui. Voilà les conseils qui sont donnés dans ces versets. En résumé, bien sûr. Mais pour bâtir sur Christ et édifier l'Église, il faut s'approcher de lui la pierre vivante. Approchez-vous de lui, la pierre vivante. On a entendu tout à l'heure encore dans ce texte, approchez-vous de lui. Il y a vraiment une déclaration solennelle en cette rentrée pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous allons suivre la routine de l'Église habituelle ou est-ce que nous allons dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi, je veux découvrir quelque chose de plus de toi encore dans cette rentrée. Merci Seigneur pour ce qui a pu se passer auparavant, mais je crois que pour cette rentrée-là, tu as encore des choses préparées d'avance afin que je les accomplisse. Et Seigneur, je ne veux pas m'habituer à tes actions, à tes bénédictions, mais je veux toujours plus. Je veux avoir soif de toi. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Jésus est la pierre vivante, littéralement la pierre qui donne la vie. On a tous connu ça. Alors, soit nous, soit les enfants, on nous offre un cadeau, une voiture télécommandée. On est super content. Et quand on veut le faire marcher, il n'y a pas les piles. Donc on fouille toute la maison pour essayer de trouver, les tester, les bonnes piles qui fonctionnent. Et des fois oui, des fois on les a, mais des fois on les a pas. On est obligé d'attendre le lendemain pour aller au magasin. Mais Jésus est la pierre vivante, ce n'est pas une pierre n'importe laquelle. C'est la pierre vivante, quand on la met dans notre cœur, ça communique la vie. Voilà ce en quoi nous croyons. Jésus est celui qui nous donne la vie. Vous savez que la Bible dit que nous avons, en tant que pécheurs, des cœurs de pierre. Un cœur de pierre, ça a quoi comme nature? Ben, c'est dur. Et on ne peut pas faire grand-chose avec un cœur de pierre. Ce n'est pas une belle image. Hein, mais le cœur de pierre qui accepte de recevoir la pierre de vie qu'est le Seigneur Jésus-Christ par la foi, devient un cœur de chair. Un cœur qui est tendre, malléable entre les mains du Seigneur. Et Dieu n'attend que ça. D'avoir des hommes et des femmes qui ont des cœurs de chair, des cœurs avec lesquels il va pouvoir travailler, avec lesquels il va pouvoir travailler efficacement. Et c'est pour ça que parfois, on se prend des épreuves, on se prend des murs, on se prend des portes fermées, parce que il reste des morceaux de pierre dans notre cœur qui ont besoin d'être brisés. Mais le Seigneur, parce qu'il nous aime, il est là pour briser. Sa parole est un marteau qui brise le roc le plus dur. Est-ce que nous allons laisser la parole briser notre cœur? Oh là là, oh, ce qu'il dit ce matin, c'est trop dur à entendre. Vous savez, ça ne me gêne pas quand les gens disent ça, parce qu'ils l'ont dit à Jésus. Alors, je ne me compare pas au Seigneur, attention. Mais parfois, la parole nous bouscule. Et on a besoin d'entendre cette parole qui nous amène plus loin dans nos retranchements afin que nous puissions grandir. Dieu ne veut pas d'une église où on construit avec les pierres du monde. L'égoïsme, l'autosatisfaction, les propres forces, les pensées humaines, les raisonnements, l'intelligence de ce siècle. Mais Dieu nous demande de nous approcher de lui, la pierre vivante, pour que la vie qui déborde de lui puisse pénétrer en nous et que cette vie qui est en nous, elle puisse déborder de nous encore. Amen. Est-ce que vous voulez déborder d'égoïsme ou déborder de la vie du Seigneur? Bon, il n'y a pas photo, hein? L'Église ne peut s'édifier qu'avec des hommes et des femmes dont Christ est la vie. Vous savez, la pensée, quand on dit Jésus est la source de la vie, c'est la même chose. La pierre vivante, c'est auprès de Jésus, parce que j'ai compris qu'il va me communiquer la vie, c'est auprès de lui que je m'approche. Et je veux être touché dans mon cœur. Quand on s'approche du Seigneur avec ce cœur-là, on l'a fait la première fois qu'on a rencontré le Seigneur, on s'est approché de lui, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais j'aime à vous dire que quand on refait ça, jour après jour, instant après instant, il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand on vient véritablement devant le Seigneur avec cette humilité et avec cette soif d'être animé ou ranimé, le Seigneur agit dans notre cœur. Je vous lis le verset 5, mais dans la version Parole de vie. « Approchez-vous de lui, alors vous aussi comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit-Saint. » Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. Vous-même, comme des pierres vivantes. On vient de parler de la pierre vivante, la celle qui dépasse toutes les autres en termes de débordement de vie, Jésus. Jésus est capable de bénir et d'amener la vie dans toute la planète. Mais il veut faire de chacun de nous des pierres vivantes. C'est magnifique. Mais vous savez pourquoi? Parce que ce qui est limité déborde quand il est confronté à ce qui est illimité. Est-ce que nos cœurs ne sont pas limités? Petits, faibles, fragiles? Est-ce que la vie du Seigneur, elle n'est pas abondante? Je suis venu donner la vie en abondance. Quand un petit cœur faible, fragile et tout rikiki reçoit la vie abondante du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, ça déborde. Donc, il y a plein de choses à en tirer, mais peut-être si je ne déborde pas de la vie du Seigneur, c'est que je ne me suis pas assez approché. J'ai besoin de revenir. Et si je déborde du Seigneur, mais que ça n'a pas fait de progrès, ben j'ai besoin de m'approcher encore un petit peu plus. En tout cas, peu importe où nous en sommes, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de nous approcher du Seigneur pour que ça soit sa vie qui nous imprègne et qui déborde de nos propres vies. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous voyez qu'on est dans la même chose qui est redite par Pierre. On a parlé de Salomon et de Paul, mais là, c'est Pierre qui dit la même chose que ce qu'on vient de dire. Par-dessus le fondement de Jésus, la pierre vivante, il faut bâtir une église qui sera une maison spirituelle. Il y a tellement de gens dans ce monde qui sont des SDF spirituels. Vous savez, les gens, ils courent partout, ils cherchent. Il y en a, ils trouvent des ponts de raisonnement, des trottoirs de philosophie dans lesquels ils pensent qu'ils sont réfugiés, mais ils sont SDF. Spirituellement, je parle. Bien sûr qu'il y a d'autres, il y a des SDF matériellement. Mais combien sont SDF? Et l'Église doit être une maison spirituelle pour accueillir ceux qui sont des SDF spirituels. Et ça ne peut être bâti et édifié qu'avec des pierres vivantes. On n'a pas le droit d'être une pierre qui est figée. On n'a pas le droit d'être une pierre qui reste avec un cœur dur. Quand on est dans l'Église, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On doit laisser la vie du Seigneur faire son chemin dans notre cœur et déborder de nous. Une communauté de prêtres saints. C'est ce que vous savez que vous êtes tous ici dans des sacrificateurs. Si vous avez fait la paix avec Dieu, vous êtes des sacrificateurs et vous devez offrir des sacrifices spirituels. Ce n'est pas moi qui vous le demande, c'est la Bible qui vous le demande. Est-ce que vous le faites? Alors ça, vous ne me répondez pas. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut que j'aille prendre un agneau que j'ai vu sur le bord de la route pour l'offrir en sacrifice? C'est ça? Non. Ça, c'était la loi. Mais la Bible nous parle de tellement d'autres sacrifices qu'aujourd'hui, nous devons offrir en tant que sacrificateurs. Sacrifice de louange. Sacrifice de reconnaissance. Je crois que c'est la leçon, d'ailleurs, des enfants. Savoir dire merci. Vous savez que les Français, on n'est pas très, très fort à ça. Quand on compare peut-être aux États-Unis, où là, ils sont trop, très forts, voire trop forts. Et des fois, ils en font trop pour pas grand-chose. Mais nous, on a peut-être l'inconvénient d'être trop en retrait. Savoir dire merci. Être reconnaissant. C'est un sacrifice qui est marqué dans la Bible. Et si nous sommes des sacrificateurs, nous devons apprendre à faire des sacrifices de reconnaissance. Sacrifice d'action de grâce. Sacrifice de justice, de consécration, d'obéissance, de prière, de bienfaisance, de générosité, d'humilité, de soumission, de miséricorde. Je me suis arrêté à un moment donné parce que sinon ça allait finir la prédication comme ça. Juste avec le listing de tous les sacrifices que les croyants sont appelés à faire parce qu'ils sont des sacrificateurs. La mission est devant nous, mais c'est à nous de nous y mettre. Si la vie du Seigneur abonde en nous, alors il va nous donner ce cœur qui agit pour lui. Le pasteur Spurgeon a écrit « En venant à lui, notre fondement, nous devenons un temple. En venant à lui, en tant que saint d'Israël, nous devenons un saint sacerdoce. En nous reposant sur son sacrifice, nous offrons également des sacrifices spirituels. » C'est une réflexion qu'il donne sur ce passage. Mais la clé, c'est de venir à lui. Quand on vient à Jésus, il y a quelque chose qui est transformé dans notre réaction par rapport à ce qui se passe. Jésus est la pierre vivante et nous devons nous approcher de lui. Pour avoir la vie, nous devons aussi croire en lui, la pierre choisie. Vous allez me dire, mais moi je crois, ça fait des années que je me suis décidé pour le Seigneur. Oui, ça c'est ce que vous avez fait, vous avez cru. Moi je vous parle de croire aujourd'hui. On peut rester sur la croyance que l'on a eue, la décision que l'on a eue, le choix que l'on a fait il y a 20, 30, 40, 50 ans ou hier. Mais on doit comprendre que c'est tous les jours qu'on fait un choix pour le Seigneur. Jésus est appelé la pierre vivante, mais il est aussi appelé la pierre choisie. Alors bien sûr, le premier qui a choisi le Seigneur, c'est son Père. Il a choisi pour qu'il soit le sacrifice parfait. Jésus est la pierre choisie parce que le Père a choisi de l'envoyer pour nous. Et on remercie Dieu pour ça. Il n'y a que lui qui aurait pu faire ça. Mais parce qu'il a fait ce choix-là, d'envoyer Jésus sur la terre, nous sommes devant le choix de mettre notre foi en lui. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous verrez dans la parole de Dieu, il y a toujours un contraste. Il y a toujours un choix à faire. Il y en a qui rejettent et il y en a qui choisissent de suivre. Il y en a qui abandonnent et il y en a qui marchent derrière. Ça, c'est la parole de Dieu. Il y a toujours le bien et le mal. On en a déjà discuté, mais c'est exactement ce qui se passe là. On ne peut pas être sur un chemin mitoyen. Ça ne fonctionne pas. Oh, moi, j'ai un pied dans le terrain du bien et un pied dans le terrain du mal. Comme ça, je suis sûr que dans un cas ou dans l'autre, je m'en sors. Mais ça, c'est pas dans la Bible. Hein. On ne peut servir deux maîtres. Si vous n'êtes pas sûr, revenez à l'Évangile. On ne peut servir deux maîtres. Parce qu'on en trahit un, forcément. Et on prend le risque de trahir notre maître céleste. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut choisir. Suivre le Seigneur. Regardez le verset 6. Il c'est bien spécifié. « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Ça vaut la peine de croire. Jésus est la pierre choisie, mais nous devons mettre notre foi dans la personne de notre Seigneur. Parce qu'on ne sera jamais confus, on pourrait mettre déçu. Avez-vous déjà été déçu par le Seigneur ? Si c'est le cas, on prend rendez-vous et vous allez m'expliquer. Et je pense qu'on va arriver à la conclusion que vous avez mal compris quelque chose. Parce que c'est impossible que vous soyez déçus par le Seigneur. Quand les gens sont déçus par Dieu, c'est qu'ils ont des mauvaises conceptions de Dieu. Et qu'ils donnent à Dieu des sentiments qui ne sont pas les siens. Ou qu'ils accusent Dieu des choses que lui n'a pas fait. Facile de rejeter la responsabilité sur les autres, hein. Mais quand on vient devant le Seigneur, quand on met notre foi, quand on met Jésus comme le fondement de notre vie, on n'est jamais déçu. Amen. Moi, ça me fait du bien juste de vous le répéter. On n'est jamais déçu. Je répète encore, hein. Je m'encourage. Mais c'est une réalité. Quand on met notre foi dans le Seigneur, il ne peut pas nous décevoir. Oh, les hommes, on peut se décevoir les uns les autres hein, parce qu'on est tous faillibles. Mais lui, ce n'est pas possible. En 1920, donc ça remonte un petit peu, il y avait un jury d'examen qui s'était réuni pour la sélection des missionnaires. Devant eux se tenait un jeune homme, Oswald Smith. Dans son cœur, il brûlait un rêve. Il voulait être missionnaire. Alors il avait prié, « Seigneur, envoie-moi là où tu veux, ouvre une porte, j'irai, si c'est à l'autre bout du monde, j'irai. » Et là, il était enfin devant le comité qui allait pouvoir l'envoyer quelque part. À la fin de l'examen de son dossier, la discussion, le conseil a rejeté la candidature d'Oswald Smith. Ça ne rentrait pas dans leur demande à eux, leur qualification. Il a échoué au test et Oswald Smith avait fixé sa direction, mais la vie lui a fait un gros détour. Alors qu'est-ce qu'il a fait cet homme ? Il s'est mis à genoux. Et il a crié à Dieu. « Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais que je veux te servir. Tu sais que c'est pour toi que je veux faire ça. Ça, ce n'est pas pour la gloire, ce n'est pas pour les raisonnements, etc. C'est pour toi, Seigneur. » Et alors qu'il priait et que Dieu a commencé à venir dire ce que lui voulait faire de sa vie, vous savez, il y a les projets que l'on veut, il y a les projets que Dieu veut, on y revient. Dieu a mis une idée dans son cœur. Il lui a dit, mais puisque tu ne peux pas être missionnaire, tu vas faire une église qui va envoyer beaucoup de missionnaires. Et c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, à l'apogée de l'Église, ils ont envoyé des centaines de missionnaires de leur Église locale à travers toute la planète. Parce qu'un homme qui a été déçu par ses propres idées a laissé le Seigneur le convaincre de sa volonté. Si nous croyons en lui, nous ne serons jamais déçus. Dieu, il sait pourquoi parfois les portes se ferment. Dieu, il sait pourquoi il y a des projets que l'on a qui ne fonctionnent pas. Il sait pourquoi. Mais c'est dans sa présence à genoux, en nous approchant de la pierre vivante, qu'on va avoir une réponse. Ce n'est pas en persistant, en tapant contre le mur jusqu'à ce qu'il cogne, qu'il tombe. Parce que c'est nous qui risquons de tomber les premiers. Hein. Vous êtes déjà battu avec un mur, je ne vous conseille pas de le faire. Mais parfois, c'est ce qu'on fait humainement. Mais nous avons tout intérêt à nous approcher de la pierre vivante et à croire à la pierre choisie qu'est le Seigneur. Pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru. La foi, frères et sœurs, ce n'est pas une vision des pensées, enfin quelque chose de positif dans notre tête. Non, non, c'est une réalité. Je crois dans la parole et j'agis en conséquence de ce que je crois. C'est ça la foi. Vous savez que ne pas croire rend aveugle. Ce n'est pas les opticiens qui m'ont révélé ça, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il est dit, qui sont ceux qui ont rejeté la pierre choisie? C'est qui? Vous avez vu? Ceux qui bâtissent. Vous êtes-vous arrêté déjà à réfléchir sur ça? Ceux qui bâtissent, ils ont rejeté la pierre principale. Alors, on sait que dans le contexte de Pierre, c'est référence aux Juifs, pharisiens, les principaux du peuple, qui attendaient le Messie, qui voulaient bâtir un royaume pour leur père, pour leur Dieu. Et quand Jésus, le Messie, est arrivé, ils l'ont mis de côté. Ceux qui bâtissaient ont rejeté la pierre. Moi, c'est une expression qui me fait trembler. Je ne veux pas être quelqu'un qui bâtit et qui rejette la pierre principale. Mais je veux réaliser que Jésus est la pierre principale. Principale, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est celle qui doit être en premier, celle qui doit être en avant, celle qui doit être à l'honneur, etc. C'est celle sur laquelle on bâtit tout. Malheur à celui qui veut bâtir en rejetant la pierre angulaire. Malheur à l'Église qui veut s'édifier sans la présence du Seigneur et sans la puissance de son Saint-Esprit. Ça va pas marcher. On va pouvoir faire beaucoup d'activités, mais ce n'est pas les activités qui sauvent. Hein. C'est la présence de Dieu qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Heureusement, par la foi humble, simple et continuelle, quand on se positionne pour Dieu tous les jours de notre vie, oui, je me suis positionné pour Dieu ce matin, je suis venu, c'est bien. Mais je me positionne pour Dieu tous les jours de ma vie. Ici, n'importe où, dans ma voiture, quand quelqu'un me fait une queue de poisson, je me positionne pour Dieu. Est-ce que je brandis le poing, je fais 50 coups de klaxon, je pense à plein de choses, des noms d'oiseaux, ou est-ce que je dis « Seigneur, tu connais ». Vous savez, la foi, c'est ça. La foi, c'est dans le concret de nos vies qu'elle se manifeste le plus. C'est facile d'avoir la foi à l'Église. C'est très facile. Parce qu'il n'y a que des gens qui croient. Que des gens gentils. Mais c'est autre chose d'avoir la foi quand on est persécuté dans son travail. Et je peux vous dire que je sais ce que c'est. Je ne parle pas des pasteurs. Mais avant, j'ai connu des moments difficiles. Mais c'est là où le Seigneur nous apprend à marcher par la foi. Mettons notre foi dans la pierre choisie. Approchons-nous de la pierre vivante. Et le dernier point, pour bâtir sur Christ et édifier l'Église, il faut parler de lui, la pierre précieuse. Au verset 9, il est dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Vous avez remarqué, parce qu'on s'approche de la pierre vivante, on est des pierres vivantes. Parce qu'on croit en la pierre choisie, on devient une race élue ou choisie. C'est le même mot en fait. Nous sommes une race choisie par Dieu. Vous allez me dire, oh là là, mais ça met de côté tous ceux qui Non, mais il n'est pas question. C'est celui qui croit qui est choisi. Vous comprenez? C'est pas, ça veut dire que tout le monde peut croire. Et une fois qu'il croit, il devient choisi. Dieu regarde ça avec... Vous savez, des fois, on est dans la préélection, la prédestination, et on tombe dans toutes sortes de travers. Mais c'est tellement simple. Celui qui est élu, c'est celui qui est candidat avec le Seigneur. Seigneur, je suis candidat, est-ce que tu me sauves? Tu es élu. Tu fais partie de la race élue. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de ce texte en disant « Oh là là, Pierre emploie une mauvaise expression. Il parle de race, il fait des séparations. » Mais en fait, le texte, il dit exactement le contraire. Il dit, peu importe la race, c'est pas un joli mot, d'accord, mais peu importe l'origine que l'on a, on est un seul peuple devant Dieu. C'est ça qu'il dit le texte. Et moi, ça me réjouit quand je lis ces versets, savoir que je suis d'une nation, dans une nation élue. La nation spirituelle, d'accord, de l'Église, justement. Il ne s'agit pas de la France ou dans l'Angleterre. Non, c'est la nation du peuple de Dieu, de ceux qui sont élus par la foi. Parce qu'on parle de la pierre précieuse et honorée, on devient honoré par lui. On a besoin d'annoncer les vertus de notre Seigneur. Et souvent, on se trompe quand on veut parler de ces choses-là. On croit qu'il faut qu'on raconte plein de choses. On croit qu'il faut qu'on parle beaucoup. Tout à l'heure, on parlait des beaux discours. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de déclarer l'amour, la paix, la joie de notre Seigneur. Vous savez, c'est quoi le meilleur moyen de déclarer l'amour du Seigneur, de l'annoncer? Est-ce que vous savez? Il y en a qui savent, je sais. C'est quoi? Ah, vous n'osez pas répondre. Qu'est-ce que c'est le moyen le plus simple de dire aux gens que Dieu les aime? De les aimer. Voilà, il n'y a pas de piège. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, le Seigneur nous permet d'aimer. Alors vous allez me dire, on a tous besoin de progresser dans ce domaine, je suis d'accord, oui. Mais c'est une réalité. Si je veux parler de la vertu, de l'amour de mon Seigneur, de la paix de mon Seigneur, on verra d'ailleurs que la paix fait partie d'un des éléments qui édifie l'Église. Il y en a tellement, les paroles que l'on dit, ça édifie ou pas l'Église. Et c'est tellement important de faire attention à cela. Mais le Seigneur nous invite à réaliser à quelle valeur il a. Il est la pierre précieuse. Et parce qu'il est la pierre précieuse, parce qu'il a une valeur profonde dans notre cœur, littéralement ça veut dire honorée, chère, coûteuse, estimée d'une grande valeur, c'est ça, précieux. Si on relit le verset 7, il est dit « L'honneur est donc pour vous qui croyez. » Si le mot existe, vous me pardonnerez s'il n'existe pas. « La préciosité est donc pour vous qui croyez. » Mais vous comprenez le sens? C'est ce mot-là. C'est pour ça qu'on aurait pu plutôt dire « C'est une pierre honorée, une pierre estimée. » Et là, en anglais, j'ai beaucoup aimé cette traduction de ce verset 7. « L'honneur est donc pour vous qui croyez. » C'est traduit « Pour vous qui croyez, Jésus est précieux. » Vous comprenez la pensée? Est-ce que Jésus est précieux pour vous qui croyez? Pour vous qui croyez, vous qui avez cette foi, Jésus, ce n'est pas n'importe qui. C'est la pierre d'angle, c'est la pierre vivante, c'est la pierre choisie. Pour vous qui croyez, il est précieux. Et parce qu'il va avoir cet honneur dans votre cœur, ce qui va déborder de votre vie, et ce qui va annoncer sa vertu sans que vous vous en rendiez compte, ben c'est sa grâce, son amour, sa paix, etc. Est-ce que ça vous intéresse d'édifier l'Église? Est-ce que ça vous intéresse de ne pas bâtir en vain? Le Seigneur nous donne tout ce dont on a besoin. Et je crois que si nous mettons ces choses en pratique, si nous les prenons à cœur véritablement, l'Église à Auch, à Condon, à Nogaro, partout, va être édifié par la grâce de Dieu. Amen. On va fermer les yeux quelques instants. Mais j'ai à cœur de dire que certains ont besoin de s'approcher du Seigneur. Finalement, ce n'est pas un message compliqué. ce que j'ai apporté ce matin. C'est que Jésus doit être au centre. Jésus doit être le fondement de notre foi. Mon frère, ma sœur, est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Est-ce que Jésus est le fondement de ta foi? Si ce n'est pas le cas, humilie-toi devant ton Seigneur et approche-toi de lui, pierre vivante. Si tu veux vivre plus d'expériences avec ton Seigneur, parce que tu sais qu'il a préparé des choses magnifiques pour toi et pour ton Église, approche-toi de ton Seigneur. Si tout va bien pour toi, mais que tu veux, parce que tu as soif de Dieu, expérimenter sa puissance, approche-toi de lui, pierre vivante. Ce matin, la pierre vivante est au milieu de nous par le Saint-Esprit et nous voulons être au bénéfice de son contact. Seigneur éternel, viens renouveler la vie dans ton peuple. Viens, Seigneur, attiser la flamme de notre foi ce matin. Nous ne voulons pas vivre les choses avec routine. Nous ne voulons pas, Seigneur, jouer à l'Église. Nous voulons vivre l'Église et édifier l'Église pour qu'elle soit cette maison spirituelle qui va accueillir ceux qui sont blessés, ceux qui sont sans abri dans ce monde. Qu'elle soit une protection spirituelle pour ceux qui viennent se réfugier. Seigneur éternel, nous avons entendu ce verset et nous voulons le serrer sur notre cœur. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Seigneur, je veux le déclarer pour moi-même, mais je le déclare au nom de mes frères et sœurs. Pour moi, pour nous, nous approcher de toi, c'est notre bien. Ô Seigneur éternel, apprends-nous à nous approcher. Apprends-nous à faire des progrès. Apprends-nous à toujours aller plus loin, à ne pas nous contenter de peu, mais à aspirer à ce que toi tu veux, Seigneur. Viens révéler ta volonté. Viens donner du discernement. Viens répandre ton esprit, Seigneur. Viens toucher les cœurs, souffler sur les consciences, afin que ton œuvre s'accomplisse. Oui, nous ne voulons pas bâtir en vain, mais nous voulons bâtir cette maison que toi tu es en train de bâtir, éternel. Merci pour ce que tu fais. Tu nous as rendus ouvriers avec toi. Nous ne le méritons pas, mais nous le sommes par ta grâce. Et nous te bénissons. Oui, nous offrons ce matin ce sacrifice de reconnaissance. Merci, éternel. Merci pour ta bonté. Merci pour le frère, pour la sœur que tu as mis à côté de moi. Merci pour ce que tu as fait dans sa vie et ce que tu vas continuer de faire. Ô éternel, oui. Voulons être ce peuple de sacrificateurs sur lequel tu règnes, Seigneur. Reçois l'adoration de chacun d'entre nous. Tu connais celui qui est dans l'affliction. Tu connais celui qui est dans la situation où il pense qu'il a été déçu peut-être par toi. Viens montrer à cette personne que tu n'étais pas trompé, mais que tu maîtrises tout et que tu changes le mal en bien. Ô éternel, nous te faisons confiance et nous mettons notre foi en toi, Seigneur. Amen.